Et on retrouve à présent nos amis du timesofisrael.com et nous sommes en ligne en Israël avec le Père Alexandre. Bonsoir à vous, Père Alexandre.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, merci. Vous participez à la communauté des blogueurs du Times of Israel et vous avez publié plusieurs...
Oui.
Vous participez à cette communauté et vous avez publié plusieurs articles, notamment en tant que blogueur, sur les chrétiens d'Orient. Alors, on va y revenir un instant avec vous. Le pape disait, je crois, mais c'est vous qui connaissez ce sujet mieux que moi, le pape disait c'est la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses ?
Oh là là, on se calme, hein. Excusez-moi, on se calme tout de suite. Hein. D'abord, moi, je suis responsable au sein du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem sur l'ensemble du territoire d'Israël et dans la société israélienne des chrétiens de citoyenneté israélienne qui sont venus, en gros, des pays de l'Est ou qui parlent hébreu. Et je célèbre en hébreu. Alors, c'est quelque... Et en hébreu, il m'arrive de célébrer, évidemment, en russe, en roumain, en sort, etc. Je parle très, très peu français. Et donc, je commence par me présenter, n'est-ce pas, parce que je ne suis pas catholique, je suis oriental, et les chrétiens d'Orient, c'est voilà, le pape Jean-Paul II parlait des deux poumons, n'est-ce pas. Bon, c'est une expression qui est assez connue, c'est-à-dire l'Orient, l'Occident. Il oubliait le thymus. Le thymus, ce sont les fameux chrétiens d'Orient dont tout le monde parle en ce moment, qui s'affichent un peu partout, si je comprends bien, à Paris, et créent parfois le buzz, et qui créent une grande anxiété générale par leur situation. En Israël, nous avons tout à fait d'autres personnes, bien que nous les ayons reçues aussi, c'est une chose à manifester. Alors le pape, vous comprenez, la Troisième Guerre mondiale, ça, c'est vraiment du médiatique. Hein. Dire qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale alors que la Deuxième s'est à peine terminée, hein, et elle est pratiquement jamais terminée, nous le voyons, alors que nous voyons que 100 ans après la chute de l'Empire ottoman, eh bien l'Empire ottoman, quelque part, n'arrive pas à décéder. Moi, je le vois tous les jours, hein, vous savez. Les Arabes, ils réfléchissent en termes de l'Empire ottoman des Turcs. Hein. Donc, dire que nous sommes à la Troisième Guerre mondiale, disons qu'il y a actuellement un gros tsunami dans la région, et que malheureusement, en fait de chrétienté, en fait de religion, on mentionne très très peu le caractère positif de résistance que représente précisément la société israélienne dans son ensemble. Je ne parle pas ici d'un point de vue sioniste, hein. Je parle d'un point de vue, je parle même pas d'un esprit partisan. C'est une réalité, on le sait. Alors, l'État d'Israël a Chofesh Dibour V'Dat, il y a une liberté d'expression et de conscience, et c'est l'un des très rares États, sinon le seul dans la région, qui l'exprime d'une façon qui malheureusement est trop silencieuse pour les autres pays du monde.
Justement, Israël est peut-être le seul pays, et c'est ce que disait Benjamin Netanyahou, le seul pays où les chrétiens d'Orient sont vraiment protégés. Dans un pays où les chrétiens, hein, d'ailleurs, vous avez raison de signifier, mais enfin, on connaît moins bien le sujet que vous. Donc, les chrétiens sont protégés dans un pays où ils sont très massivement opprimés. Et des églises ont encore été brûlées cette semaine en Égypte. Et personne n'en parle puisque justement tout le monde se focalise, et vous l'avez bien souligné, sur ce qui se passe du côté de l'Irak et donc des chrétiens d'Orient. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre israélien?
Alors, le premier ministre israélien, moi, je ne suis pas un politique. Je les connais à peu près tous. C'est pas du tout... Ça fait partie, je dirais, presque de l'inculturation à la société israélienne. Hein. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, entendre chacun. J'ai entendu souvent, en direct, pratiquement à 5 mètres, Benjamin Netanyahou parler. Lui, il parle en tant que responsable du chef de l'État, enfin, je veux dire, de premier ministre israélien en charge de la communauté d'Israël. Vous comprenez ? Alors, il n'est pas directement concerné par le problème des chrétiens. Il peut y avoir des discussions sur que certains Arabes décident de se joindre à la communauté israélienne pour faire, par exemple, le service militaire. C'est à peu près logique. Hein. Dans tous les pays du monde, les fidèles sont appelés à prier pour le gouvernement local et à le servir. C'est très difficile dans le contexte proche-oriental que nous avons, et cela pose des questions, notamment à l'intérieur des églises, qui n'étaient absolument pas préparées à voir la résurgence d'un État d'Israël. C'est ça le problème. C'est que les églises anciennes, les églises présentes depuis des siècles, sinon 2000 ans, ont vu arriver un État d'Israël il y a quoi, 6 décennies. Et ça, ça les a choqués, ça continue de choquer, ça continue d'interroger, et ça interroge également la communauté israélienne. Alors, effectivement, je suis persuadé qu'effectivement, l'État d'Israël, par sa structure, pas seulement, n'est-ce pas, le Likoud contre la gauche, ou je ne sais trop quoi, mais la conscience même de l'identité israélienne, ouvre sur une sorte de catholicité, si vous permettez. Alors, l'âme coulo, l'ensemble du monde vient chez nous. Et comme il vient chez nous, il y a aussi les chrétiens du monde entier. Et que les chrétiens qui étaient là depuis le début, effectivement, ils ont leur place. Parfois, les choses sont très difficiles. Par exemple, il y a ces jours-ci, des prêtres arméniens qui se font insulter dans la rue. Ça m'arrive très fréquemment. Ça dure pas longtemps parce que j'ouvre la bouche et ça se termine très vite. Hein. Mais il faut savoir aussi que effectivement, il y a une liberté. Les autres chrétiens d'Orient auxquels vous faites allusion, qui vont de l'Égypte à la Mésopotamie, c'est un monde très ancien. Qui n'a pas commencé à être persécuté aujourd'hui. Je lisais hier, par exemple, parce qu'il m'arrive de célébrer en araméen, au IVe siècle, on avait persécuté bien davantage les chrétiens qui sont aujourd'hui les Assyriens, les Chaldéens, les Syriens et tout ça, toute une population extrêmement ancienne et qui, surtout, ceci on ne le souligne pas, sont d'expression sémitique.
Ah oui.
Ben oui, l'araméen, quand même, c'est notre langue aussi. Hein.
Ah, c'est la langue du Talmud.
C'est la langue du Targum, c'est la langue du Kaddish. Si vous lisez le Kaddish et le Notre Père, je vous le dirai le Notre Père en araméen, ben vous retrouvez le Kaddish.
Ah oui.
Vous comprenez ?
C'est surtout la langue du Talmud. Pratiquement...
Ben oui, et de manière très intéressante, ces églises-là ont su aller voir le gouvernement israélien et leur dire « mais nous avons un lien historique, culturel, même s'il y a des antagonismes d'ordre religieux », et dire « nous sommes finalement des cousins qui ne sommes pas trop éloignés et puis on voudrait bien se rapprocher ». Et il y a belle lurette que les Syriens orthodoxes ont eu un statut particulier qui est inexact en hébreu, ils sont les Ashurim, c'est-à-dire assyriens, alors qu'ils sont syriens. Mais on n'a pas voulu, à ce moment-là, leur donner le nom de syriens à cause du voisin, vous comprenez ? Mais je veux dire que c'est une réalité au sein de la communauté juive. Là, je ne peux pas, vous comprenez, en quelques minutes ou quelques secondes, vous expliquer une chose pareille.
Vous expliquez 2000 ans d'histoire.
Disons que c'est une chose réelle, qui existe véritablement, et on fait face. Il faut aussi souligner que l'ensemble de ce monde chrétien arrive à Jérusalem et en général Baharetz, c'est-à-dire dans l'ensemble du pays. Il faut le souligner pourquoi ? Parce qu'ils sont bien reçus, que ça crée un lien permanent entre Jérusalem et Bethléem, c'est-à-dire que les gens vont dans des hôtels du côté, disons, des territoires comme Bethléem, Betjala, Betzachou, ils vont ensuite repasse la frontière du côté d'Israël. Ça crée une sorte de circulation des hommes, des idées, de partage qui est positif et qu'on ne souligne pas assez.
Et dont on n'a jamais entendu parler même. Eh bien, Père Alexandre, je vous remercie pour ces quelques mots. Là, il faut savoir que vous faites la Pâque, vous, avec vos fidèles,
nous,
en même temps que nous, on fait Pessah.
Nous, c'est samedi, oui. Nous, c'est samedi prochain. Normalement, à Jérusalem, l'ensemble des églises, enfin, en terre sainte, dans l'ensemble du Proche-Orient, normalement, les églises catholiques et orthodoxes sont sur le calendrier orthodoxe depuis de très vieilles traditions. Actuellement, sur Jérusalem et Bethléem, ça reste encore séparé. Mais et ça a toujours lieu, comme je l'ai souligné dans mon article, ça a toujours lieu après la fête de Pessah. Et voilà. Et moi, je vous dis, Moadim le Simcha.
Eh ben, merci beaucoup. Et bonne fête à vous, Père Alexandre.
Merci.
On retrouve vos articles sur la plateforme des blogueurs de nos amis de timesofisrael.com. Et je vous remercie pour ce message plein d'amitié. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et on retrouve dans un instant le journal de Pierre Gandus.